Rapporteur du texte sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, le sénateur Les Républicains, Philippe Mouiller, vice-président de la commission des affaires sociales, n'a pas apprécié sans doute la fin de non-recevoir du gouvernement. C'est sa vision d'un certain modèle social, de la politique et de son monde en règle générale, dont nous allons nous entretenir avec lui dans Média, notre magazine réalisé avec La Nouvelle République et Le Courrier de l'Ouest. Dominique Cadu et Dominique Guinfolo ont pris place autour de cette table. Messieurs les journalistes, monsieur le sénateur, bonjour.
Bonjour,
bonjour, bonjour.
Avant de parler donc de l'autonomie financière de la personne handicapée que vous avez âprement défendue, l'actualité du moment, Philippe Mouiller, c'est la primaire de votre parti, Les Républicains, avec un troisième débat, c'était hier soir, entre les 5 candidats à l'investiture. Votre candidate Valérie Pécresse a-t-elle été à la hauteur ?
Oui, je pense qu'elle a été à la hauteur. En tout cas, elle a pris le temps et avec conviction, elle a fait passer ses messages, notamment la vision de la France qu'elle avait et ses principales propositions.
Valérie Pécresse, on l'a parodie, hein, qui est votre candidate ?
Oui, tout à fait. Donc je l'accompagne depuis 3 ans, puisque ça fait déjà quelques années que je suis à ses côtés et que je participe en tout cas à l'écriture d'une partie du projet sur l'aspect social.
Est-ce que, Philippe Mouiller, l'ombre de Zemmour a quand même plané sur ces débats ?
Alors, je ne sais pas si c'est l'ombre de Zemmour. En tous les cas, le cas Zemmour fait partie forcément des réflexions. Et surtout, l'engouement qui lui est donné au regard des sujets qu'il porte sur la table. Parce qu'il y a 2 choses aujourd'hui. Zemmour parle, un peu comme avec tous les Français, d'un certain nombre de préoccupations. Pour l'instant, sans vraiment faire des propositions. Mais forcément, on écoute, on regarde, à la fois avec intérêt sur les questions posées, avec inquiétude aussi sur le positionnement politique plutôt extrême. Mais ça fait partie, en tous les cas, des acteurs qui sont dans le débat pour ces élections présidentielles.
Je vous pose la question parce qu'on peut se dire forcément que c'est la surenchère entre les différents candidats, parce qu'il y a ce socle commun entre les candidats des Républicains et que forcément, chacun d'entre eux, j'allais dire presque l'obligation d'aller chercher un sujet.
Alors, ça peut paraître un peu la surenchère, c'est classique à chaque élection.
C'est pire en ce moment.
Mais je crois quand même qu'aujourd'hui, on est face clairement à une situation qui préoccupe les Français. Un certain nombre de sondages sortent aujourd'hui sur les principales préoccupations de nos concitoyens et on voit que globalement, il y a 2 sujets en tête, de loin, que sont la santé et aujourd'hui la sécurité. Et à partir de là, dès lors que vous êtes un responsable politique, ça veut dire que vous devez, à travers votre projet, eh bien faire des propositions au regard de ces 2 sujets. Et ça n'a jamais été aussi fort. C'est-à-dire que depuis toutes les élections, lorsqu'on reprend les statistiques, ces situations n'ont jamais été aussi fortes. Et puis pour moi, qui suis quand même assez souvent à Paris, je comprends aujourd'hui ces inquiétudes. Voilà. Donc je crois que à la fois, il y a le débat et qui fait qu'à un moment donné, on est dans une primaire de droite. Donc les candidats parlent avant tout à leur public, à ceux qui vont être amenés à voter pour eux. Mais on est quand même aujourd'hui clairement sur un sujet de préoccupation qui n'a jamais été aussi fort et qui d'ailleurs est relativement inquiétant.
Des préoccupations qui sont mesurées par les sondages. Et comment vous interprétez les mêmes sondages qui montrent la défiance envers le personnel politique et les organisations et les institutions ?
Alors, il y a 2 choses. D'abord, ça, c'est pas nouveau. Il y a d'abord 2 choses, c'est parce que je crois que d'une façon générale, les Français ont toujours un rejet au regard du personnel politique, puisque souvent, les politiques ont parlé, ont proposé et n'ont pas forcément fait. Et donc, avec le temps, naturellement, on se pose la question de la confiance qu'on peut leur accorder. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, clairement, à un moment donné, on voit bien que lorsque la situation se dégrade, et notamment en matière de sécurité, on se dit, écoutez, il y a eu des gouvernants de tendances politiques diverses depuis 20 ans, et on voit bien qu'aujourd'hui, les choses ne s'améliorent pas. Donc, on voit bien que la sphère politique nationale est regardée avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de méfiance, à la différence de la sphère locale, puisque là, on a beaucoup plus confiance aux maires, aux élus locaux. Et puis, l'attitude aussi du gouvernement, c'est que le fait que le président de la République ait quelque part, durant ce mandat, mis de côté les corps intermédiaires, c'était à la fois les syndicats, à la fois les élus locaux, voire même les parlementaires, on voit bien qu'en étant en prise directe, eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une non-reconnaissance connaissance, en tous les cas, du rôle d'un certain nombre d'élus nationaux. Et ça, c'est un des enjeux, d'ailleurs, de cette élection, et c'est une aussi des explications, aujourd'hui, du phénomène Zemmour, parce que on efface, finalement, quelqu'un qui n'est pas, aujourd'hui, affiché comme étant un politique, entre guillemets, professionnel, qui est plutôt un homme des médias, et on voit bien que c'est une des réactions qui se traduit à travers l'engouement qui est porté autour de tout ça. Et ce sera, en tous les cas, un des enjeux de l'élection, c'est comment on redonne confiance, avec, pour nous, un point essentiel, c'est parce que à chaque élection, on parlait de surenchère, mais à chaque élection, on parle de réforme et souvent on parle du sang des larmes. C'est-à-dire que voilà, situation compliquée, on vous promet du sang des larmes. Bah, l'idée, à un moment donné, c'est aussi peut-être parler d'effort, mais aussi de parler d'espoir. Et je trouve qu'il manque beaucoup dans le débat politique, et quelles que soient les sensibilités, cette lueur d'espoir. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on met des réformes sur la table? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on propose de faire évoluer les choses, parfois avec des contraintes? Parce que derrière tout ça, eh bien, il y a une lueur d'espoir, et ça fait partie aussi du message apporté par les politiques pour redonner confiance.
Alors, qu'a-t-elle Valérie Pécresse de mieux que les autres candidats LR, et qu'a-t-elle de mieux pour être demain présidente de la République?
Alors, par rapport aux autres candidats, je crois que d'abord, le point essentiel, c'est d'abord un style. Parce que on voit bien dans les débats, il y a quand même un cercle commun qui est important. D'abord un style, et surtout une capacité de dire clairement les choses et de les avoir quelque part testées, expérimentées. À la fois son expérience en tant que ministre, à la fois son expérience en tant que présidente de région, d'une région un peu particulière, à la fois urbaine et rurale, à la fois en première ligne dans la sécurité, mais à la fois par rapport aux besoins sociaux. Donc elle a, je dirais pour elle, le fait d'avoir pu appliquer concrètement, pendant son dernier mandat, un certain nombre de solutions qu'elle propose pour la France. Et ça, quelque part, pour moi qui suis quand même un terrien, quelqu'un proche, je dirais, de proximité, le fait de pouvoir dire je propose une solution que j'ai testée et j'ai vu les limites et j'ai vu les points forts, est pour moi un point important. Donc c'est une discussion autour du style. Et puis ensuite, il y a quelques propositions qui vont bien avec un équilibre. Parce que c'est à la fois, un discours de force, d'autorité de l'État, et en même temps une dimension humaine et sociale qui est présente. Et moi, j'ai besoin de ces deux équilibres. Ça correspond à la conception de la politique. Voilà, donc à la fois cette vision de la France, à la fois cette capacité de porter un message, et puis d'avoir testé un certain nombre de préconisations, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pour moi des atouts. Et puis après, il y a un lien d'amitié, de relation. Je l'accompagne depuis 3 ans à peu près, donc je la connais bien. Donc c'est aussi des rencontres entre des hommes et des femmes à un moment donné qui fait qu'on a envie d'aller plus loin avec la personne.
Un style, ça veut dire quoi exactement? Et est-ce que ça prend pas le dessus justement du fond? Aujourd'hui, on est dans le style, dans la posture.
Non, je pense pas. Enfin, si on prend le temps de s'arrêter, d'écouter des propositions, on voit bien que tout se construit avant tout à travers un fond. Quelle vision de la France vous avez? Quelle capacité vous avez à un moment donné à apporter des solutions face à des situations extrêmement difficiles que l'on connaît? Donc, ça part avant tout du fond. Le tout, pour revenir à la question tout à l'heure, de quelle confiance on donne aux politiques, c'est à travers justement la façon dont vous allez le traiter, la façon dont vous allez le proposer, le réalisme des propositions. C'est ça que c'est qui fait la différence avec le fond.
Est-ce que ces débats, ces gens de la même famille politique qui s'affrontent, parfois qui se déchirent, est-ce que ça décrédibilise pas un peu justement aussi le monde politique? Les gens se disent, ils sont même pas d'accord entre eux, enfin voilà, comment ils peuvent arriver à gouverner, et il va falloir ressouder tout ce monde après les débats et puis éventuellement les incidents qui peuvent se produire.
Alors, la particularité de cette primaire ou de ce congrès, c'est qu'à ma connaissance, les gens ne se déchirent pas. Si vous avez suivi les débats depuis le début, il y a des nuances, de temps en temps, on voit bien qu'il y a quelques remarques particulières, mais on n'est pas du tout dans la primaire de la dernière fois. Les gens ne se déchirent pas. C'est-à-dire que tout le monde a compris que pour pouvoir gagner les élections et la présidentielle, il va falloir être unis et que tout le monde soit mobilisé derrière un seul et unique candidat. Donc d'abord, c'était ça la grande difficulté. C'est les règles du jeu pour que tout le monde soit dans la même méthode. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans ces déchirements, on n'est pas du tout dans l'affrontement, on est plutôt dans la co-construction avec des nuances, un socle commun important, des nuances de style, et puis également des propositions qui peuvent varier en fonction de la vision que peuvent avoir les différents candidats. Donc, à mon avis, ce ne sera pas très compliqué de faire en sorte de se remobiliser derrière celui ou celle qui sera le gagnant de ce congrès. Voilà, donc on est dans un style complètement différent, et aujourd'hui, je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est que parfois on dit, oui, mais on veut du débat pour pouvoir choisir, et en même temps on dit, ben non, il ne faut pas de débat parce qu'il faut être uni. Non, on est dans une phase préliminaire, Et ça permet à travers tout ça d'avoir la capacité de choisir bien la personne qui va nous rassembler. Voilà, donc je suis plutôt dans une démarche plutôt optimiste et positive à travers ces débats, à travers ce congrès, et on n'est pas du tout dans ce qu'on a pu connaître il y a 5 ans.
Sur le fond alors, toujours, ça ne vous choque pas que ce soit la sécurité et puis l'immigration qui arrive en premier dans les préoccupations des Français, et d'ailleurs ça a été traité dans les débats majoritairement avant même le pouvoir d'achat. Vous disiez tout à l'heure que certains sondages mettaient ces deux préoccupations là en avant. J'en ai vu aussi d'autres où les Français parlaient quand même beaucoup de leur pouvoir d'achat.
Oui, mais ça vient après, mais ça n'a pas été traité beaucoup dans les différents débats.
Non,
mais je renvoie le sujet aux médias. J'ai vu hier soir, par exemple, hier soir, de nouveau, lors du débat qui est télévisé, les journalistes orientés principalement sur ces sujets-là. Et lorsqu'on essayait d'avoir d'autres points de vue, on a parlé un petit peu de culture, on a parlé un petit peu d'environnement, très vite, les journalistes ramenaient sur ces sujets-là, parce que pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pas pour embêter les candidats, c'est que ça correspond à l'attente aujourd'hui des gens qui sont derrière l'écran. Et je crois, ce qui est triste, c'est pas qu'on parle que ça. Ce qui est triste, c'est qu'on soit obligé de parler que de ça, parce que la situation est extrêmement difficile.
Oui, mais
on parle beaucoup moins d'économie aujourd'hui, parce que globalement, l'économie se porte plutôt bien. On voit bien qu'aujourd'hui, les Français, et aussi pas qu'à Paris, et y compris à Bressuire ou à Montcoutin, on est sur leurs préoccupations. Et leur sujet pour la confiance, c'est d'avoir des politiques qui leur parlent au regard des sentiments de difficulté ou des préoccupations qu'ils peuvent avoir. Donc, à la fois, moi, je suis plutôt triste qu'on soit orienté sur ces sujets-là, parce que ça correspond aujourd'hui aux besoins des Français. Je préférais qu'on parle d'autres sujets. Je trouve qu'on ne parle pas suffisamment d'environnement. Enfin, je suis catastrophé de voir que pour l'instant, aucun journaliste ne pose clairement des sujets
sur les engagements
sur le climat. Enfin, voilà. Donc, on voit bien que... alors, d'abord, rappelons, on est sur une primaire, et qu'il y aura ensuite le débat de l'élection présidentielle.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est les journalistes qui font le débat et qui font la campagne?
Ben, si vous avez entendu mes propos juste avant, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est la situation de la France qui entraîne des préoccupations, et les journalistes, eh bien, posent des questions au regard de ce que leur candidat propose, ou au regard des interrogations et des inquiétudes. Et les candidats sont sur la même logique.
Oui, Sophie.
C'est un microsystème qui fait que on est sur une élection de la primaire, on n'est pas de l'élection d'élection présidentielle. Il faut rappeler les choses à un moment donné, et qu'aujourd'hui on peut tourner le sujet comme on veut. Les préoccupations premières des Français, elles sont là, et donc les questions, elles sont tournées autour de ces préoccupations.
Sauf Philippe Mouiller, qu'on pourrait aussi espérer que les élus, les politiques que vous êtes, à un moment preniez de la hauteur, et on pourrait se dire que l'un des sujets prioritaires serait pu être l'apaisement, dans la bienveillance, dans ce contexte quand même national compliqué. Et c'est pas cette thème-là ou ce thème-là prioritairement sur lequel vous vous engagez?
Non, enfin, j'entends.
Le rassemblement.
Non, mais je veux dire, ça veut dire quoi le rassemblement? Ça veut dire quoi l'apaisement et le rassemblement? Aujourd'hui, on est dans une situation où on propose de régler un certain nombre de problématiques et d'apporter un certain nombre d'espoirs pour les Français. Donc on traite ces sujets-là. Après, c'est des sujets clairement, enfin, genre, pour moi qui suis un de Sévrien, c'est des sujets qui ne sont pas des sujets qui sont prioritaires dans les Deux-Sèvres. C'est aujourd'hui une vraie problématique. Moi, je suis vraiment effaré des informations que l'on peut avoir. Les sondages, on est dans un système aujourd'hui où de toute façon, si on n'apporte pas des solutions, on va tout droit vers les extrêmes. Enfin, c'est ça la situation de la France. Alors on peut dire on est apaisé, on peut dire faut pas trop en parler. Si on n'apporte pas de solution, demain c'est l'extrême qui sera là. Donc aujourd'hui, il faut prendre ça sur la table. Et voilà. Et donc moi, ce que j'espère, c'est que très vite, lorsqu'on va passer à l'élection présidentielle, on aborde des sujets qui me sont aussi, pour moi, aussi importants, comme le climat, comme la dimension sociale qui n'est pas suffisamment traitée, parce que je vous dis, il faut, à un moment donné, aborder tous les sujets. C'est le cas notamment du pouvoir d'achat, mais pour l'instant, on est sur ce spectre-là, à mon grand regret, hein, mais on est sur ce spectre-là, en sachant qu'il y a aussi le débat de la santé. On ne vient pas de l'évoquer, mais on parle aussi beaucoup de santé, parce que c'est la deuxième grande préoccupation, aujourd'hui, des Français et de Sévriens aujourd'hui.
Le Covid, la crise sanitaire, c'est une actualité très forte en ce moment. Dominique Cadu.
Faut-il justement craindre une nouvelle crise, et ce qui se passe en Europe actuellement?
En tous les cas, on peut être inquiet sur un certain nombre d'indicateurs.
Qui sont en hausse, rappelons-le.
Qui sont en hausse un peu partout en France. À la fois cet aspect-là, à la fois on voit bien aussi que globalement, et c'est pas qu'en France, il y a une tension qui est forte auprès de la population, à la fois la fatigue cumulée du Covid, le ras-le-bol, et puis en même temps, parfois un rejet des mesures nouvelles. Enfin, j'ai un reportage ce matin sur ce qui se passe en Autriche, ce qui se passe aux Pays-Bas. Enfin, on voit bien que voilà, il y a une effervescence autour de tout cela, donc ça c'est aussi une forme d'inquiétude. Et puis une troisième inquiétude, c'est la situation de l'hôpital aujourd'hui, à l'hôpital en France, qui clairement est dans une incapacité totale de gérer une crise supplémentaire. Donc quand on cumule ces trois éléments, voilà, ça donne en tout cas des faisceaux d'inquiétude, d'interrogation. Et de nouveau, c'est le grand sujet de l'anticipation, parce que au quatrième, cinquième ou sixième, on sait qu'aujourd'hui, il y a nécessité de réellement essayer de traiter un certain nombre de sujets par anticipation, de tirer des enseignements de ce qui s'est passé. Voilà, donc voilà, et clairement, on voit bien que on est dans une phase plutôt inquiétante. Moi, je ne crois pas à un reconfinement, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des mesures d'accompagnement qui vont durer, enfin, les gestes barrières, le masque, peut-être des mesures, on évoque éventuellement, comme en Autriche, le confinement des gens non vaccinés. Moi, je n'y suis pas favorable, mais en tous les cas, on voit bien que ça bouge. Et puis, cette tension est forte, hein, dans la population.
Vous parlez de l'hôpital, parlons tout de suite concrètement de l'hôpital Nord de Sèvres et même de l'hôpital à Niort. Quelle est votre position sur le local, si je puis dire?
J'ai tendance à dire que le local n'est que l'expression de ce qui se passe au niveau national. Alors on peut éventuellement évoquer le fait de la situation géographique des Deux-Sèvres ou de l'hôpital Nord de Sèvres, mais on a globalement la même difficulté partout en France, à la fois d'un hôpital qui est complètement désorganisé, à la fois d'un hôpital qui n'est plus attractif, donc qui fait qu'à un moment donné, on ne trouve plus ni de médecin, ni de professionnel de santé, et en même temps d'un hôpital qui est fatigué. Donc là, la crise Covid a forcément joué son ampleur. Vous savez, on avait le système français de l'hôpital était en souffrance, était malade. Et le Covid, finalement, n'a fait que mettre en évidence et accélérer les difficultés. Et aujourd'hui, on est extrêmement inquiet. Enfin, moi, je connais des hôpitaux en France où il n'y a plus d'urgence le week-end. Et c'est pas dans les deux ça. Vous voyez, on voit bien qu'on a une difficulté qui est généralisée et qu'aujourd'hui, de nouveau, il y a urgence. Urgence, et on aurait dû l'anticiper après la première crise Covid. Il y a urgence à apporter des réformes de fond avec un principe très simple. Il n'est pas lié aux Deux-Sèvres. C'est que depuis 20 ans, vous voyez, c'est pas lié à un gouvernement. Depuis 20 ans, on a réformé l'hôpital. Et à chaque fois qu'on a réformé l'hôpital, on a fermé des lits, on a ouvert des bureaux. Voilà. Et ça, c'est toute la symptomatique d'un système qui est devenu suradministré. On passe plus de temps à faire des statistiques sur le niveau de dépenses que s'occuper de savoir si on a capacité à mobiliser des professionnels de santé et les accompagner.
Justement, est-ce que ça ne participe pas à la défiance dont on parlait tout à l'heure du personnel politique et des institutions? Les gens ont vu la dégradation du système hospitalier comme d'autres systèmes et ils constatent qu'on a arrivé à un système qui est un petit peu usé jusqu'à la corde, qui est complètement, on va dire, obèse, et du coup ils se disent mais pourquoi on n'a pas réagi plus tôt?
Oui. Enfin, d'une façon générale, tout ce qui est problématique renvoie sur la défiance des politiques. C'est-à-dire que quand il y a un problème sur la table, on se dit mais qu'est-ce que font les politiques? Ça, c'est assez classique.
C'est votre rôle en même temps.
Exactement,
hein.
Exactement. Donc voilà, donc je vous utilise beaucoup le mot défiance depuis le début du reportage. Mais enfin, voilà, d'une façon générale, c'est une suite de réaction logique face à une difficulté. Mais clairement, l'hôpital, c'est vraiment le sujet où on voit bien qu'il y a un manque d'anticipation depuis de nombreuses années. Le débat sur le monde de médecins, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir des calculs parce qu'on est sur un système qui n'a pas été modifié, qui n'a pas évolué et qu'à chaque fois, vous savez, en France, il n'y a pas que la santé. On voit bien, en France, à chaque fois qu'on a un problème, on se dit à un moment donné, pour régler le problème, on met plus d'administration. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et à chaque fois, on se rend compte que finalement, la recette qui est proposée ne fait qu'empirer le mal. À chaque fois qu'on a un problème, on crée une taxe. À chaque fois qu'on a un problème, on fait de la suradministration. C'est une logique qui s'est enclenchée depuis 20 ans et qu'on voit bien aujourd'hui dans plein de domaines, on a la difficulté et que si on ne réagit pas, on va aller dans une situation extrêmement catastrophique.
Donc l'hôpital public, là, doit embaucher, on doit lui donner les moyens.
Alors, il faut d'abord, c'est qu'il faut...
En personnel
donné,
médical, j'entends bien.
Il faut d'abord redonner le pouvoir aux soignants dans l'hôpital public. C'est d'abord ça, la première démarche. Confier aux professionnels le fait d'organiser, de pouvoir, à un moment donné, donner les priorités. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, vous avez un problème de réorganisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les hôpitaux en permanence sous une tutelle qui les oblige à passer des heures du personnel pour envoyer des statistiques permanentes pour vérifier si on maintient les courbes. C'est des objectifs généraux qui doivent être être donnée de toute façon globale, et on adapte en fonction des situations, parce qu'en plus l'hôpital de Bressuire ou de Niort ne fonctionne pas exactement que l'hôpital dans le nord de la France ou en région PACA. Donc il y a aussi une adaptation de tout ça. Je pense aussi qu'il faut ensuite régionaliser l'organisation de l'hôpital, parce que dès qu'on gère au niveau national, on crée une sclérose autour de tout ça. Donc tout ce qui est haute autorité de la santé, c'est du national, c'est logique. Tout ce qui est système de remboursement, c'est du national, mais il faut aussi régionaliser. Il faut aussi ouvrir l'hôpital, la relation médecine de ville-hôpital. Voilà, enfin, on a toute une, je dirais, une litanie de sujets. Le tout, c'est que tout ça, il faut surtout le permettre. Et pour le permettre, c'est-à-dire qu'il faut redonner aux soignants le pouvoir dans l'hôpital.
Vous parlez de régionaliser l'hôpital, un peu suivant le modèle allemand qu'on regardait un petit peu comme un super modèle au début de la crise Covid et dont on voit maintenant un peu les limites. Est-ce que c'est la même philosophie ?
Non, c'est pas la même philosophie, parce que l'Allemagne c'est un pays fédéral. Et donc, quelque part, on a recréé une centralisation dans les régions. Voilà, donc c'est pas tout à fait le même modèle. Le tout, c'est quoi ? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on puisse réellement créer de la connexion entre les systèmes hospitaliers d'une même région. On le fait d'ailleurs dans les Deux-Sèvres. Le fait d'avoir, à un moment donné, créé des liens forts entre Niort et le nord de Sèvres, c'est un élément qui contribue. Donc, il faut avoir cette souplesse, cette capacité. Voilà. Mais je vous dis, il n'y a pas une solution pour l'hôpital. Il y a, à un moment donné, une multiplicité de solutions. Par exemple, la tarification, la T2A aujourd'hui, le fait qu'on puisse uniquement bénéficier de dotations principalement autour des actes, il faut remettre ce système à plat. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, les soins ne sont pas adaptés, et on connaît les solutions, mais il faut oser affronter, quelque part, cette bureaucratie qui fait qu'à un moment donné, on est tout géré. Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. Lorsque vous avez un préfet dans le département, qui est quand même le préfet, le principal personnage de l'État dans le département, et vous avez l'ARS qui est à Bordeaux, et quand l'ARS prend une décision sur le fonctionnement de l'hôpital à Niort ou à Bressuire, le préfet, il constate, c'est tout. Voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a enlevé cette notion de proximité, de reconnaissance, et que les décisions des RS à Bordeaux vont plutôt bien, ça se passe plutôt bien chez nous, mais il y a des endroits c'est plus compliqué, parce que cette centralisation permanente, voilà, ça pose des vraies difficultés.
Mais on comprend bien, Philippe Mouilleuil, que la santé est un enjeu de proximité, mais n'empêche, on le voit bien avec cet hôpital pourtant pratiquement neuf à Bressuire, pour l'instant ça ne fonctionne pas, ou très très mal.
Mais ça ne fonctionne pas parce que globalement, il y a un problème de spécialistes. Il y a un problème.
Alors c'est là où j'allais en venir. Mais c'est le fond du sujet.
Il n'y a pas que ça. Parce qu'on pourrait avoir beaucoup de médecins sur la table. Si vous avez une désorganisation, en plus,
vous auriez les médecins à l'hôpital de...
Oui, mais on enlève les vocations. C'est toute une organisation.
Ça changerait la donne quand même, s'il n'y avait pas
Mais on est cause à effet. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un système qui est global. Le problématique de l'hôpital, c'est aussi la problématique de la médecine de ville. C'est le problème des certifications, c'est tout le système. Je vous donne un exemple tout simple. On a le gouvernement a annoncé la fin de Numos Clausus pour dire voilà, on va créer des médecins pour pouvoir aller plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas donné la capacité aux universités de former plus de médecins.
Il faudra attendre 10 ans.
Oui, alors il faut attendre 10 ans, mais il y a des mesures rapides. Moi, je vous en donner une, on en a voté une au Sénat, qui a été votée, qui est dans le texte, pour lequel on attend toujours, depuis 18 mois, le décret du gouvernement. On a proposé qu'à partir de la 6e année, les étudiants puissent faire un stage obligatoire en zone défavorisée. Voilà. Donc c'est pas une année supplémentaire d'études, simplement dans leur cursus, ils ont 6 mois de stage obligatoire en zone défavorisée. On sort le décret, ça veut dire qu'à la rentrée suivante, c'est 3500 médecins en formation, mais médecins en tous les cas, qui irriguent le territoire national. Ça, c'est concret. Voilà. Il faut des mesures, à un moment donné. Voilà. C'est tout le débat aussi des compétences qu'on peut, à un moment donné, exercer collectivement avec les infirmiers, par exemple. Voilà. On a un certain nombre de solutions d'urgence qui devront en parallèle être mis en place avant que les solutions de fond puissent porter leurs fruits. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet pour lequel on a un manque d'anticipation, on a aussi un corporatisme aussi qui est fort autour de tout ça, et qu'il ne faut pas faire que des paroles. Je dis, l'histoire de Numos Clausus, c'est flagrant. On a la solution, c'est qu'on ne met pas en place. Donc voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une urgence et qu'il faut bousculer la ligne.
Alors, il y a le problème de l'hôpital, il y a le problème des communes qui n'ont plus de médecins, bien qui sûr. N'ont plus d'ophtalmologues, qui n'ont plus de dentistes. L'élu que vous êtes, vous avez eu certaines choses à Montcoutan, vous avez mis en place certaines choses, alors pourquoi vous l'avez fait à Montcoutan et pourquoi ce n'est pas possible ailleurs ?
Et vous avez été co-rapporteur sur la manière de répondre des collectivités.
Pourquoi vous l'avez fait comme maire à l'époque ?
À la désertification.
Et d'ailleurs, ce rapport est en ligne aujourd'hui, je l'envoie cette semaine à l'ensemble des élus du département. Sur le rapport, c'était finalement un certain nombre, un peu une liste des bonnes initiatives qui existent au niveau du territoire national, soit portées par des communes, des intercos, les départements, et on voit qu'à un certain nombre d'endroits, ça fonctionne. Alors, ce qui est passé à Montcoutan, c'est que j'ai surtout eu, moi, la chance, quand j'étais maire, d'avoir un médecin qui s'est mobilisé, qui a mobilisé ses partenaires, la collectivité, pour dire qu'il faut réagir. Donc, j'ai eu cette chance-là, ce qui fait que assez tôt, on a enclenché l'opération. C'est simple. Globalement, on sait que les médecins, les professionnels de santé ne veulent plus travailler seuls. C'est un état, donc il faut donner les conditions pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient en regroupés sur un territoire. Mais les murs, c'est pas le plus important, parce que faire des murs, c'est simple pour les élus. Ce qui est surtout important, c'est qu'on crée un projet, un territoire de santé dans lequel les professionnels se causent, travaillent entre eux, et surtout acceptent d'accueillir des stagiaires, parce que c'est comme ça qu'on a trouvé les médecins, hein. C'est souvent des stagiaires qui viennent, qui se disent finalement, on n'a pas forcément eu l'idée de s'installer en zone rurale, mais qu'une fois qu'on a testé, on se rend compte que la qualité de vie est plutôt sympathique et ça fonctionne.
Vous y croyez vraiment?
Ah oui, et tous les exemples que l'on a, globalement, il y a des départements, je pense à un département comme l'Aveyron, qui est à peu près équilibré, c'est-à-dire qu'il y a autant de médecins qui arrêtent que des médecins qui s'installent. 80%, c'est parce qu'ils sont venus à un moment donné, et que globalement, ils ont fait le choix de rester, alors qu'à première vue, même si l'Aveyron c'est sympathique l'été, c'était pas du tout leur préoccupation.
Mais il faut que la mairie incite et offre des conditions financières ou pas?
Alors oui, alors c'est pas forcément une question financière. D'abord, mairie ou interco ou département. On a tous les exemples. Par exemple, on a des départements comme la Saône-et-Loire, où ils ont carrément salarié des médecins. Aujourd'hui, le département de la Saône-et-Loire a salarié 70 médecins qu'ils ont répartis sur l'ensemble du département, et ils n'ont pas de difficulté pour les recruter. Vous avez d'autres endroits où finalement, eh bien, c'est avant tout le fait d'avoir un tutorat professionnel, un lieu d'exercice coordonné sur le territoire, et éventuellement, on accompagne la famille pour que, bah voilà, on voit comment ils ont des conditions de vie qui les intéressent, pour rendre finalement leur vie dans un endroit qu'ils ont choisi, facile, agréable et adapté. Voilà. Donc il y a toute une litanie, mais aujourd'hui, alors je vous invite à lire le rapport, hein, qui reprend un peu ces sujets-là, mais c'est ça, l'idée, c'est vraiment de dire la collectivité doit être facilitateur. Et il y a même des endroits où on met en place des télécabines. Donc on les installe dans des pharmacies, ça c'est vraiment quand à la fin de la fin de la fin, on n'a pas de solution. Mais c'est aussi une réponse qui peut être adaptée en complément. On voit bien qu'il y a tout
ça. Ça peut être qu'un complément.
Oui, mais aujourd'hui ça fonctionne bien. C'est-à-dire que pour avoir vu, j'étais très réticent moi sur le sujet, hein. J'étais voir comment ça marchait. Globalement, sur un certain nombre de prescriptions de suivi, hein, ça marche plutôt bien. C'est pas le point essentiel. Et que je vous rappelle, la consultation télécabine n'est faite qu'à regard du fait que vous ayez avant vu votre médecin généraliste ou un médecin généraliste, et c'est plutôt le suivi qui se fait par télécabine.
Oui, mais
en sachant que tout ça, c'est des solutions d'attente par rapport à une urgence fondamentale qu'il faut traiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là.
Oui, mais comment vous pouvez dire à un jeune médecin, venez à Montcoutan-sur-Sèvre ou à Pressuire ou ailleurs, plutôt que d'aller à Paris, La Rochelle ou Nice?
Alors aujourd'hui, ce qu'on peut lui dire, d'abord, un, c'est qu'on espère surtout que pendant ses études, il sera venu à Montcoutan ou à Bressuire. Ça, c'est déjà le point essentiel.
À Montléon, il y a vraiment
Montléon. Il aura l'occasion de venir. Bon, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que globalement, c'est vraiment la clé de réussite. Hein. Lorsque vous êtes venu dans un lieu, vous avez, si ça s'est bien passé, ça, voilà. Donc le tutorat, les stages sont essentiels dans cette organisation. Et puis deux, ça veut dire que quand il va venir dans le bocage, il va avoir des conditions d'accueil par les maisons de santé qui fonctionnent bien. Il va avoir des conditions d'accueil portées par le département des Deux-Sèvres qui a mis en place des outils relativement intéressants, à la fois sur un accompagnement, un accueil, une personnalisation. Et puis il va se rendre compte que finalement il n'est pas très loin de Cholet, pas très loin de Nantes, que la vie sur les bords de la Sèvre nantaise, c'est plutôt agréable. C'est tous ces éléments qui viennent sur la table, mais parce qu'à un moment donné, c'est organisé. C'est-à-dire que c'est pas simplement lui tout seul qui se lève le matin en disant pourquoi pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été contacté, il a fait un stage, on lui a fait une proposition. Lorsqu'il arrive dans les Deux-Sèvres, il est pris en charge avec l'ensemble de sa famille. Il y a tout un ensemble de préconisations. Et pourquoi pas, à un moment donné, imaginer que certaines collectivités proposent aussi de salarier des médecins. Ça peut être aussi une piste de travail, parce que ça marche plutôt bien. Parce qu'on voit bien que le problème, il est autant sur le problème de la localisation géographique que sur en réalité le statut libéral qui pose des questions. Et puis, il y a un grand sujet qu'il faudra mettre sur la table, c'est une de mes préconisations, qui est le débat de l'installation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir mettre sur la table le débat de l'installation. Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent tu as obligation de t'installer à tel endroit. Parce que si on fait ça, on peut le faire. Déjà, on n'a pas beaucoup de médecins, on a un problème de vocation, on aura encore moins. Mais par contre, tu as des zones prioritaires dans lesquelles tu es plutôt bien accompagné, notamment en matière de prise en charge et de fiscalité. Et inversement, des endroits, si tu décides d'aller là-bas, eh bien, tu es mal accompagné. Donc, il faut concrètement près aussi des différences d'attractivité de territoire, et ça contribue à l'élément de tout ça. Et puis je vous dis, ce débat sur l'installation doit avoir lieu. Moi, j'ai évoqué le stage de 6 mois voté par le Sénat. Il y a aussi des propositions qui est de dire, à un moment donné, à l'issue de votre cursus de formation, bah, vous avez 1 ou 2 ans en zone prioritaire à accorder. Voilà. Donc il y a des propositions sur la table, mais elles doivent être mises en parallèle.
Une mini-obligation.
Hein, oui, c'est plutôt un accompagnement, c'est ça, une orientation. Mais ça doit être mis en parallèle d'un vrai chamboulement concernant le numerus clausus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte d'accueillir beaucoup plus, de former beaucoup plus de professionnels de santé. Une proposition, on dit, mais les facultés, on ne peut pas pousser les murs. Ben, très bien, organisons des premières années de médecine dans les départements. Sur Cagnon, on doit être capable de pouvoir accueillir les premières années. Donc ça fait partie des propositions. Il faut qu'on ait des campus numériques, il faut qu'on ait la capacité d'organiser ces premières années-là. Donc ça s'est fait dans certains départements, hein. On réinvente rien, ça marche plutôt bien, parce que ben, les jeunes, voilà. Et donc, on a cette volonté. Et puis je ne parle pas ensuite de la formation, comment on fait la sélection, hein, le système français qui fait qu'à un moment donné, on prend les meilleurs. Alors que si tu veux dire à un moment donné, c'est 16 sur 20 ou c'est 17 sur 20, tu passes 16 ou 17, bah, à partir de là, tu continues. Donc on voit bien qu'il y a une refonte globale et puis il faut bousculer les habitudes. Quoi. Voilà.
Vous êtes inquiet sur le
terminer. Juste pour terminer, que ce soit pour l'hôpital ou que ce soit pour le problème de la désertification médicale, il n'y a pas une solution. On voit bien, c'est une panoplie d'outils pour lesquels il faut enclencher tout ça en parallèle.
Vous êtes inquiet, je vous disais, sur le devenir là, du centre hospitalier Nord de Sèvres?
Oui et non, oui, parce qu'on voit bien, on voit bien, je dirais, qu'aujourd'hui, toutes les difficultés et les dysfonctionnements, on peut se poser beaucoup de questions. Là où je suis plutôt optimiste, parce que l'équipement est neuf. Et donc ça veut dire qu'un équipement neuf, il y aura toujours à un moment donné une organisation qui sera mise en place pour faire en sorte qu'on puisse aller plus loin dans l'évolution, la restructuration. Voilà. Donc inquiet, je dirais à court terme, mais paradoxalement pas forcément à moyen terme, parce que voilà, on a cet équipement qui existe, qui correspond, c'est un vrai besoin territorial. Et voilà, alors qu'on va peut-être avoir des évolutions, mais voilà, donc j'ai quand même, je suis plutôt optimiste pour l'avenir.
Vous parliez de bousculer les habitudes et d'un modèle qu'on pourrait éventuellement appliquer à la médecine. C'est aussi le signe, quelque chose qui est plus général, puisqu'on voit aussi les entreprises dans nos territoires qui ont beaucoup de mal à recruter des gens qui ne veulent pas venir dans des territoires comme les nôtres, qui veulent aller dans les grandes villes, dans les agglomérations ou sur la côte ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une solution là? On peut pas rester aussi avec une France agglomérée qui ne regarde pas la France rurale.
Oui. Alors, j'aurais tendance à dire que depuis la crise Covid, je pondérerai vos propos sur la France agglomérée. La problématique du recrutement, c'est un autre sujet. À la fois par quoi? Parce qu'on a des territoires qui ne se ressemblent pas. Lorsque vous êtes dans le nord de Sèvres avec 4,5% de chômage, c'est pas la même chose que quand vous êtes à Roubaix. Donc on voit bien déjà, quand le taux de chômage est bas, à un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus loin.
Ouais, quand on frise le plein emploi.
Voilà. Donc il y a quand même ce sujet-là. Et puis ensuite, il y a un problème d'attractivité des métiers. Il y a un problème d'orientation, il y a un problème de formation, il y a un problème, vous voyez, la politique de Pôle emploi. La politique de Pôle emploi, c'est la même politique nationale. Il faut régionaliser Pôle emploi, c'est pas les mêmes enjeux dans le nord de Sèvres, et pourtant on a plutôt des acteurs qui s'adaptent, hein, mais c'est pas les mêmes enjeux. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois en matière d'orientation et de formation, il faut régionaliser, il faut faire en sorte qu'on puisse dialoguer au niveau régional avec le monde de l'entreprise. Donnons des formations qui correspondent aux besoins des territoires, des bassins de vie. D'ailleurs, on sait très bien, on a la culture à Bressuire, hein, le CBE pendant des années a apporté des formations professionnelles qui étaient adaptées aux besoins des entreprises. Mais appliquons ça au niveau national. Voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, entre la problématique où on n'est pas forcément toujours équilibré en matière de taux de chômage, les problèmes de démographie, il y a des départements qui sont moins attractifs que les autres, les problèmes de concentration, les problèmes de formation et d'orientation, là vous avez tous les ingrédients. Voilà, et puis de nouveau, il y a le débat aussi de comment est-ce qu'on rend le travail plus attractif que le fait de ne pas travailler. Alors il y en a certains qui considèrent qu'il faut baisser le niveau des aides. Moi je suis partie de ceux qui pensent qu'il faut augmenter les salaires. Donc ça fait partie des sujets pour lesquels Il faut avoir une vraie capacité de créer une différence notoire entre les gens qui ne travaillent pas sur.
Est-ce qu'il faudrait par exemple un Grenelle sur les salaires?
Bien sûr, il faut un Grenelle sur les salaires parce que c'est à la fois un débat politique et un débat d'entreprise. Un débat d'entreprise parce qu'il faut clairement poser la question aujourd'hui des niveaux de salaire, surtout dans une période où globalement, même s'il y a quand même des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de marché, et que c'est pareil pour toutes les filières, on voit bien que cette question des salaires, elle est sur la table. On discutait il n'y a pas très longtemps avec les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, qui commencent à évoquer des propositions de branches de 10 ou 11% d'augmentation. C'est parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui, en matière d'attractivité, le débat des salaires et des conditions de travail est essentiel. Il y a le débat du télétravail qui rentre en ligne de compte aussi. Donc on voit bien qu'on a une évolution. Et puis c'est aussi un sujet de politique nationale. C'est le débat des charges aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises et sur les feuilles de salaire des salariés. Donc là aussi, il y a un vrai sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à globalement 2,2 fois le niveau du SMIC, il faut qu'on baisse les charges, voilà, pour qu'à la fin, sur la
feuille de salaire... Alors, les charges salariales ou les charges patronales?
Les deux. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut que sur la feuille de salaire, clairement, eh bien, on est plus à la fin du mois sur le net, voilà. Donc on a des évolutions autour de tout ça. Et puis, moi, je suis dans ma famille politique, mais je partage largement ça. Une des réponses à nos maux de tout ça, ben c'est clairement l'augmentation du temps de travail. Et ce sujet-là va venir sur la table. Alors, non pas de façon généralisée, puisque plutôt branche par branche, entreprise par entreprise. On sait que, globalement, en augmentant le temps de travail, alors pas forcément passer de 35 à 39, mais c'est une vraie discussion qu'on aura sur la table. On sait qu'on augmente forcément le pouvoir d'achat des salariés. On augmente également la production pour les entreprises pour lesquelles c'est adapté, pas toutes. Et en parallèle, on fait rentrer des cotisations dans les caisses. Donc c'est une des solutions aujourd'hui à travers tout ça.
Et quand vous dites le temps de travail, pardon, il y a aussi l'âge de la retraite ou pas?
Alors c'est un autre sujet.
Mais
je finis sur le temps de travail quand même. Parce que quand vous dites à un moment donné, j'arrive pas à recruter sur mon territoire. Bah, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu proposes à tes salariés de travailler plus et de gagner plus d'argent, bah, tu as une des réponses au problème de la manœuvre dans ton territoire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'appliquer de façon exhaustive sur tout le territoire, c'est discussion par discussion, territoire par territoire. Et ça renvoie le débat de l'âge de la retraite. Je fais partie de ceux aussi qui pensent que, de toute façon, il ne faut pas penser, il suffit de regarder les comptes, c'est d'une mathématique improbable, enfin imparable. Lorsque tu vois les comptes, si tu ne fais rien, bah, globalement, on cumule les déficits, et donc dans 2 ans, déjà, tu es à peine capable d'assurer les niveaux de retraite. Donc tu sais qu'aujourd'hui, la réforme est nécessaire. Alors, si, soit tu baisses les niveaux de retraite, et tu dis aux gens, bah, on reste sur les mêmes durées, soit tu fais en sorte, à un moment donné, de trouver de nouvelles ressources, donc ça c'est de l'impôt, soit inversement, tu m'en proposes aux gens de travailler plus longtemps. Pour moi, c'est pas un débat d'âge. Il y a un âge qui est fixé à 65 ans. C'est pas le débat, en réalité. C'est pour donner un indicateur, c'est pour de la communication. Le vrai sujet, c'est la durée du temps de travail que tu as. Parce que tu as des gens qui ont commencé plus tôt que d'autres. Et puis, comment tu intègres la pénibilité dans le travail. C'est pas la même chose lorsque tu es maçon que... quand tu es maçon, on peut imaginer travailler jusqu'à 65 ans, c'est pas une bonne idée. Et inversement, tu as d'autres métiers où tu peux le faire. Donc, il faut intégrer la pénibilité, mais réformons le système qui a été mis en place. On a créé une usine à gaz avec le compte pénibilité, où chaque entreprise, pour chaque salarié, doit se faire un travail individuel qui fait qu'en plus, c'est pas cohérent d'une entreprise à l'autre, d'un territoire à l'autre. On doit organiser les grandes filières, les grands métiers pour définir le niveau de pénibilité et adapter les situations. Voilà.
Sauf qu'à ce rythme-là, les jeunes qui font des études, de longues études, vont se retrouver à la retraite, si toutefois ils en ont une, à 70 ans. Enfin,
non, parce que là, on aurait la barrière de 65. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura un maximum.
Jusqu'à maintenant, c'est
un vrai sujet. Mais à un moment donné, le vrai débat, c'est que, on peut tourner le problème comme on veut. C'est-à-dire que tous ceux, Delevoye nous est venu faire une grande réforme.
C'est les pénaliser, anticiper, faire des...
Un jeune médecin avec 12 ans d'études, il ne va pas terminer à 72 ans.
Non, mais un jeune médecin, il commence à cotiser avant. Parce que pendant sa durée, on va regarder la situation. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, la notion d'allongement du temps de travail, elle est forcément sur la table. Tous les pays européens le font, on est le seul, parce qu'on considère qu'on a un modèle différent. Et puis, je vous dis, il y a vraiment...
exception.
Il suffit simplement de regarder les comptes. On peut tout dire. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, on aura une faillite sur la répartition. Alors, est-ce qu'on ne veut plus la répartition? C'est un vrai sujet. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'à un moment donné, on aura une diminution des pensions et on continuera avec des petites retraites qui sont intenables pour les conjoints collaborateurs, pour les artisans, les commerçants. Donc, on a un vrai sujet. Je crois qu'il faut être courageux. Et voilà. Et c'est vrai que ça fait partie de ça, en sachant que quand on parle de réforme de retraite, on ne parle pas des gens qui vont à la retraite dans 2 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé à regarder les simulations. Je l'ai en tête parce que ça commencerait à concerner les gens qui ont mon âge. Oui.
Vous avez 52 ans là.
Voilà, donc voilà. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, de façon progressive, il faut trouver une évolution et on ne fera pas mieux que tout le monde. On regarde la recette. Sauf si on cotise plus à un moment donné avec le temps de travail.
Vous avez prôné à Philippe Mouillet la reconnaissance de la personne handicapée par rapport à sa situation personnelle et non pas celle de son conjoint, mais vous n'avez pas réussi à convaincre. Ça a dû être compliqué pour vous parce que vous aviez des arguments.
Oui, compliqué, puis surtout que globalement, toutes les sensibilités politiques de gauche et de droite étaient favorables à cette mesure qui semble d'une évidence. Et d'ailleurs, quand vous en parlez tout autour de vous, les gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui une personne handicapée peut bénéficier d'une allocation simplement si soit elle n'est pas mariée ou alors si son conjoint est pauvre.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'allocation dépend des revenus du conjoint.
Du conjoint, de l'ensemble de la famille. Alors que votre handicap, lui, vous le portez seul et pour toute la vie. Et parce que quand vous regardez les pensions d'invalidité, elles sont déconjugalisées. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une incohérence. Clairement, je ne comprends pas beaucoup le gouvernement. Je pense qu'ils ont. C'est Bercy qui a plus parlé que le domaine social. Mais on est clairement sur une injustice sur laquelle, même si on n'a pas été au bout de la loi.
Oui, là, pour vous, c'est une injustice sociale, clairement.
Et qui fait que même si on n'a pas été au bout de ce texte-là, c'est un sujet qui va revenir dans l'élection présidentielle. Et on voit, j'ai quelques indicateurs qui font que, même du côté de la présidence de la République, on se pose beaucoup de questions sur la prise de position. On va voir, mais ça va revenir sur le sujet. Donc, tout n'est pas perdu. Ça fait partie aussi du rôle de parlementaire de porter fort. Ce texte a été voté à l'unanimité au Sénat, a été voté aussi à l'Assemblée. Et puis aujourd'hui, on attend la commission mixte paritaire que le gouvernement ne réunira pas. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a vraiment une mobilisation de tout le monde sur ce sujet-là. Voilà, donc je suis plutôt optimiste sur l'avenir de cette déconjugalisation, même si je pense qu'il faut attendre l'élection présidentielle.
Pour l'instant, c'est l'abattement qui a été retenu.
Voilà, c'est un système d'abattement. C'est-à-dire qu'on améliore un petit peu, c'est-à-dire que on fait en sorte, vous touchez quand même votre allocation si votre conjoint est un petit peu plus riche que trop pauvre. Quoi. Voilà, donc on est sur du. Voilà, un signe qui a été donné mais qui ne correspond pas du tout à la demande. Voilà.
Ouais, le texte a été vidé de sa substance.
Oui, c'est ça. Le principe général a été enlevé. Voilà, donc c'est un vrai. On a quelques éléments comme ça, mais sur le handicap, c'est un domaine que je suis particulièrement. On voit bien que, quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup d'argent mis alors qu'on ne répond pas forcément aux attentes des personnes concernées. On a toujours le scandale des personnes handicapées qui sont obligées de partir en Belgique pour être accueillies, plus de 7 millions aujourd'hui. Donc on voit bien que là, il y a une remise à plat qui doit être organisée. Et de nouveau, le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de moyens financiers. C'est un problème de désorganisation de la France. Et c'est fou. C'est-à-dire qu'on est dans un système où le handicap, en fonction de votre âge, c'est l'assurance maladie, vous passez 18 ans, c'est les départements, vous avez un peu de budget général de l'État, un peu de l'assurance maladie, c'est un peu l'ARS, c'est un peu le départ. On est dans une désorganisation. Donc
parce qu'il y a des minima sociaux aussi.
Non, même pas. Sur la partie handicap, on est vraiment dans un sujet de prise en charge et que vous avez plein d'établissements qui sont cofinancés. Donc ils ont deux patrons, deux directions. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut réorganiser tout ce chantier-là. Alors, c'est historique, c'est parce que autrefois, vous avez les congrégations religieuses qui avaient pris en charge des personnes handicapées, globalement, sur les collectivités qui ont pris le relais. De l'autre côté, il y avait les pupilles de l'État, et c'est l'État qui a pris le relais. Et on a, avec le temps, on n'a jamais rien modifié, et on a créé une sclérose générale autour de tout ça, avec plein d'incohérences.
Vous dites c'est général et historique. Oui. Est-ce qu'on peut pas appliquer ce constat à un peu tous les domaines dont on parle en ce moment, que ce soit la santé, la sécurité, on se retrouve, ou même l'organisation de l'État, on se retrouve avec des problèmes souvent qui sont de l'histoire, un héritage, et dès qu'on veut y toucher, on a l'impression que tout se fige, tout se bloque. Les institutions, les corporations, même l'État bloque quand on veut bouger quelque chose.
Oui, ce que vous illustrez, c'est ce que j'appelle moi la suradministration du système. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, en France, alors qu'on a plein de talents, plein de possibilités, et on met quand même plein d'argent sur un certain nombre de politiques, ça ne fonctionne pas parce qu'on est suradministré. Dès que vous avez un projet industriel pour construire un bâtiment, ça devient le parcours de combattant pour le réaliser. Dès qu'une collectivité a un projet, il faut des mois et des mois et des mois pour cocher toutes les cases, pour avoir l'autorisation. Dès que vous avez un enfant handicapé, vous cherchez une place dans un établissement, il faut des mois et des mois avant d'avoir une orientation. Tout le système français est aujourd'hui sclérosé par une suradministration. Et voilà, et donc là, c'est le cumul des années. De nouveau, je ne mets pas un grief sur un gouvernement. Simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a urgence à réagir parce que c'est en train de casser un peu partout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi la différence avec avant ? C'est qu'on a amplifié le système et que, clairement, on voit bien qu'aujourd'hui, ça devient une difficulté. Tout à l'heure, on parlait du taux de chômage dans le nord de Sèvres et parfois l'incapacité pour des entreprises de recruter. Moi, je suis autant inquiet sur l'incapacité aujourd'hui de construire une usine dans le nord de Sèvres. Du coup, vous construire une usine, regardez avec une nitrice ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est toujours des bonnes raisons de nous expliquer que 120 mètres carrés de zone humide, c'était un vrai problème. Mais, je veux dire, on va bloquer une entreprise pour ça et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des enjeux carbone sur le territoire national. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut vraiment remettre un peu de bon sens. Le monde agricole est en permanence chargé par des surtranspositions, c'est qu'on fait encore mieux que les autres, l'Europe. Donc, voilà. Et moi, je pense qu'il y a urgence, et notamment, je pense qu'il faut que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, même si j'espère que ce sera mes amis, il faut que ce gouvernement ait la capacité de mettre en place réellement, gérer une forme de ministère de la simplification. C'est pas possible autrement. On l'a toujours dit, il faut...
Mais oui, j'allais vous le dire. Alors, c'est les contrats administratives, on en entend parler depuis...
Non, l'idée, c'est clairement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a trois façons de le faire. C'est un gros mot, c'est qu'il va, il va falloir qu'on passe sur le système de dérégulation. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on enlève des normes? Il faut légiférer. Oui. Ça prend du temps. Mais en même temps, il faut revoir la façon dont on légifère. Aujourd'hui, moi, je suis bien placé en tant que parlementaire pour me rendre compte que les lois sont beaucoup trop bavardes. Et comme les lois sont trop bavardes, on rentre dans le détail des lois, ce qui vous fait qu'à un moment donné, vous êtes dans un cône qui s'est créé et vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc il faut faire en sorte que les lois soient moins bavardes, que ça soit plutôt ensuite le réglementaire qui rentre dans le détail. Le réglementaire, on peut le modifier. Et en même temps, il faut qu'on puisse bien donner cette culture dans l'ensemble des mesures portées pour faire en sorte de simplifier. Mais dans l'urgence, parce que ça prend du temps, il faut avoir aujourd'hui un grand ministère à un moment donné qui s'occupe justement, ce que j'appelle moi, de la simplification. Et pour le faire vite, il faut rentrer dans le régime dérogatoire. Parce que c'est votre seul... Donc donnons le pouvoir notamment au préfet, redonnons des moyens au préfet département pour pouvoir faire en sorte que le bon sens s'applique sur beaucoup de mesures. Et inscrivons à un moment donné dans la loi de façon claire que vous avez compris, le mot est difficile à dire, pas plus de transposition européenne que de besoin, parce que c'est un mal français. Dès qu'on dit à un moment donné vous avez une norme qui doit s'appliquer au niveau européen, on a toujours tendance, nous, à rajouter. Voilà, et tout est comme ça. J'étais la semaine dernière en réunion de travail sur les programmes leaders européens. Eh bien, la France va être championne pour redonner de l'argent au niveau européen, parce que nous n'aurons pas consommé des programmes leaders européens, parce que dans nos propres instructions de dossiers, on a créé des telles complexités que plus personne demande des dossiers, des subventions.
Donc voilà, là, c'est l'administration non fonctionnaire, clairement, qui sont...
C'est la suradministration, dans lequel je mets aussi le politique. Vous voyez, moi, je ne fais pas forcément, je ne veux pas souligner en rouge le fait que ce soit les fonctionnaires. On a besoin d'eux, ils fonctionnent plutôt bien, mais à la fois, on va trop loin, et il y a parfois un peu d'éloignement, de proximité, et puis en même temps, il faut légiférer différemment.
Les enjeux de demain, l'environnement, le dérèglement climatique, vous souhaitiez en parler, et nous aussi. La COP26, ça s'est refermé sur un constat très amer.
Oui, parce que globalement, on a quand même tiré quelques conclusions pour dire qu'il y avait des conclusions, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon et surtout, on a cette grande difficulté de dialogue au niveau international. Parce que On va, un certain nombre de pays, ceux qui sont déjà, je dirais, dans une économie développée, ben, font des propositions, essaient de dialoguer, pendant que d'autres pays qui sont en voie d'émergence, qui très naturellement cherchent à avancer, à évoluer, bien aujourd'hui ne sont pas dans des recherches d'accord, notamment sur le carbone.
Est-ce que c'est compatible même ?
C'est la vraie question qui se pose, est-ce que c'est compatible ? Mais avec plein de cohérences permanentes, vous voyez, notre grand sujet pour nous, c'est le sujet du nucléaire. C'est-à-dire que partout en Europe, il n'y a pas que la France, mais en Europe, on dit on arrête le nucléaire. Je suis plutôt favorable d'arrêter le nucléaire. Mais comme on ne produit pas d'énergie à côté, on relance les centrales à charbon partout. Donc le bilan carbone, il est mauvais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est plein d'incohérences permanentes.
Le nucléaire, c'est votre seul point d'accord là, avec Emmanuel Macron, justement ?
Ah oui, c'est mon point d'accord depuis 6 mois. Depuis 6 mois, puisque il y a 6 mois, il était plutôt d'une logique qui n'était pas la même. Voilà. Bon, voilà. Et donc, on se rend bien. Voilà. Mais le vrai débat, il est international. On voit bien qu'aujourd'hui, on a une extrême difficulté. Tout le monde est d'accord sur le constat. Mais voilà, c'est comme tout. Hein. On veut bien les réformes, mais chez les autres. Voilà. Et donc, c'est extrêmement préoccupant. Voilà. Et je crois que ça devrait être réellement une cause sur laquelle il y a une vraie mobilisation et que on soit à l'échelle européenne, qu'on soit aussi des acteurs. Ça passe par quoi ? Ça passe par à la fois le fait de donner l'exemple dans notre fonctionnement, mais clairement, il faut qu'on puisse accompagner un certain nombre de pays dans leur mutation. On parle de l'Afrique, par exemple, il faut les accompagner dans leur mutation. D'ailleurs, ça ne réglera pas que des problèmes liés à l'environnement, ça réglera aussi des problèmes de développement économique et d'immigration, mais on a un vrai sujet. Et donc, si aujourd'hui, on n'a pas cette capacité, je suis extrêmement inquiet pour l'avenir. Et puis, avec nos grands mastodontes que sont la Chine, l'Inde et les États-Unis, on voit bien que voilà, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes, et on est un peu diminué. Il faut quand même face à tout ça.
L'Europe, par exemple, en ce moment, avec la crise des migrants sur la frontière biélorusse.
Oui, c'est un sujet. Alors là, on est sur une autre thématique, parce qu'à la fois, c'est le problème de la crise des migrants de façon générale, et puis c'est le débat de la géopolitique, c'est-à-dire comment la Biélorussie, quelque part, active un bâton, parce qu'en parallèle, il y a eu des mesures de rétention de la part de l'Europe, notamment sur le problème de la démocratie en Biélorussie, avec le jeu de la Russie derrière tout ça. Donc voilà, on est devenu, les migrants sont devenus des outils de gestion de la géopolitique, ce qui est quand même extrêmement grave. Voilà, donc on voit bien que on est sur des grands enjeux. Alors, les futures crises en matière d'environnement vont encore amplifier ces phénomènes-là. Hein. Voilà. Donc, on a vraiment aujourd'hui un vrai sujet, et ça veut dire que l'Europe, et notamment la France dans l'Europe, doit avoir réellement cette capacité de pouvoir essayer de porter un message et au moins participer à un vrai dialogue autour de la table. Donc voilà, on a plutôt tendance, nous, à montrer nos muscles en disant voilà ce qu'on peut faire, mais je crois qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet de mobilisation. Mais voilà, quand j'ai vu les conclusions de ce qui s'est passé à Glasgow, j'avoue que beaucoup d'inquiétude et puis parfois un sentiment d'être un peu démuni quand même face à tout ça.
Démuni ou carrément impuissant ? J'en reviens à l'Europe.
Je refuse d'utiliser le mot impuissant, parce que voilà, c'est un combat à mener, qu'il faut continuer à le mener, et dans tous les cas. Voilà.
Vous n'êtes pas résigné.
Non, il faut pas, et puis sinon il ne faut pas faire de politique dans ce cas-là.
Le plan de relance, on a rapidement parlé économie tout à l'heure, est-ce qu'il faut l'amplifier, l'accélérer en tout cas ?
Alors, moi je suis pris entre deux domaines, ça dépend dans quel domaine. Premier domaine, d'abord il a été nécessaire, c'est-à-dire qu'on a vu que ça nous a permis, le gouvernement a plutôt bien agi dans ce domaine-là, parce que ça a permis d'éviter un certain nombre de crises et de difficultés, voilà. Mais en même temps, moi je suis très inquiet de l'ensemble des chèques que l'on fait. Et la question peut se poser de savoir si on n'est pas aujourd'hui dans une situation où il faut, dans un certain nombre de domaines, calmer les jeux, parce que le vrai sujet, on l'a évoqué, hein, il faut recruter, il faut avoir la capacité à investir, et qu'il va falloir payer tout ça. Un chiffre, hein, on était à fin septembre à une facture simplement pour la crise Covid de 183 milliards d'euros, qui vient se rajouter aux 3000 milliards d'euros de déficit. Alors, on est bien, et puis on sent bien qu'on est en campagne électorale. Hein, là, depuis 6 mois, on vient de dépenser 25 milliards, parce que dès qu'il y a une revendication, la planche à billes fonctionne. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre ce qui est, pertinent, qui est nécessaire pour que des champs d'économie ne tombent pas, pour qu'éventuellement des situations notamment je pense au Ségur de la Santé a été moyen de réagir rapidement par rapport à des gens qui ont fait un effort, donc ça c'est essentiel, et en même temps pas tomber dans un système où dès qu'il y a besoin on y va de la dette, parce que c'est que de la dette, que de la dette, que de la dette. Et la dette, on sait bien que on en parle depuis toujours, mais l'augmentation des taux d'intérêt, et on se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Voilà. Donc tout ça, c'est un jeu d'équilibre. Donc je pense que il faut, dans un certain nombre de domaines, continuer le plan de relance, mais par contre, en parallèle, il y a plein de domaines dans lesquels il faut stopper parce qu'on n'en a pas les moyens.
Dominique Cadu.
Philippe Mouillet, est-ce que vous avez un destin national ? En dehors de votre casquette, entre guillemets, de sénateur, est-ce que vous voyez un jour, pourquoi pas avoir une mission encore plus importante au Sénat ou voir, pourquoi pas, dans un gouvernement ?
Clairement, je vois pas grand-chose. Je fais partie. J'ai pas de plan de carrière autour de tout ça. Je fais partie de ceux.
Mais la politique est votre carrière, quand même.
Oui, mais par rapport à la question qui est posée. Moi, je fais partie de ceux qui, globalement, se disent que si je dois porter des idées et que mes idées sont reprises, eh bien, je veux bien aller plus loin pour pouvoir les porter. Mais c'est par les projets, les idées. Moi, je suis très bien aujourd'hui dans mon équilibre entre ma vie montcoutantaise, ma vie du bocage et ma vie parisienne. Et que, voilà. Je dis pas non, je dis pas oui, mais en tout cas c'est pas mon objectif. Voilà, clairement c'est pas mon objectif. Si à un moment donné on me dit tiens, sur un certain nombre de sujets on a besoin de toi, il faut aller plus loin, je le ferai. Mais voilà, je suis pas dans cette démarche là. En tout cas, si j'accompagne Valérie Pécresse, c'est absolument pas pour ce sujet là on en a jamais parlé. Moi, ce que je veux surtout, c'est que, notamment dans le domaine du handicap, elle reprenne mes propositions. Ça, c'est ce qui est vraiment ma fierté.
Vous avez regretté un moment qu'on vous prive de votre mandat de maire?
Ah oui, tout à fait.
En étant en plus sénateur.
Et j'ai toujours d'ailleurs ce regret. Je trouve que c'est une vraie difficulté. On ne verra pas sur cette discussion-là, mais globalement, on voit quand même, quand on voit le fonctionnement des deux assemblées, je pense que si certains nombre de parlementaires avaient eu un mandat local à un moment donné, ils auraient parfois des réactions différentes.
N'empêche, on vous proposerait un poste de ministre à un moment ou un autre. Ou alors, le Graal, ce serait quoi, la présidence du Sénat ?
Mais j'ai pas de Graal. Donc, franchement, voilà.
On peut vraiment répondre ça ?
Non, mais le vrai sujet, c'est pourquoi faire ? Parce que quand
mais
vous.
Justement, c'est une question de pouvoir. Non, mais là.
Voilà, pourquoi faire ? Parce que ça peut sembler sympathique sur le papier. Enfin, il y a aussi beaucoup de contraintes. Moi qui aime beaucoup ma liberté. Et voilà. Donc, voilà. Franchement, je suis vraiment pas dans ce sujet-là, dans ce débat-là. Moi, ce qui m'importe, c'est quelle capacité j'ai à peser sur des décisions politiques à un moment donné, lorsque je considère que ces décisions sont justes. Voilà. Et donc, c'est vrai que je suis quand même très tourné autour de l'économie et du social. Moi, ce qui m'importe, c'est ça, c'est qu'on puisse avoir réellement répondre à la question à quoi sert un parlementaire ou éventuellement quelqu'un qui a d'autres missions, quelle est la plus-value il apporte sur le débat national.
Vous parliez justement d'économie et de social. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, généraliser les territoires zéro chômeur longue durée sur toute la France ? Bon, on sait qu'ils ont été développés sur différents territoires. Mais est-ce qu'il faudrait aller plus loin encore ?
Alors, je resterai prudent pour l'instant parce qu'on a encore besoin de faire des attentes d'évaluation et notamment d'évaluation par rapport au modèle économique. C'est ça la vraie question. L'intérêt du sujet, il est clair. La capacité de mobiliser des gens qui étaient éloignés de l'emploi, c'est une réalité. Et d'ailleurs, au passage, on voit que beaucoup de travailleurs handicapés bénéficient de ce dispositif-là. Donc là-dessus, je crois que les quelques années d'expérience sont largement positives. Après, il y a des questions sur la modélisation économique qui doivent être encore affinées. Voilà, mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on pourra passer de 10 à 50 territoires, ça donnera une ampleur encore plus forte à l'expérimentation, avec des territoires un peu différents, hein, parce que c'est pas toujours la même chose en fonction des secteurs. Il y a aussi la discussion de l'adéquation entre les entreprises à but d'emploi, mais le monde de l'insertion également, et le monde des entreprises adaptées. Donc il y a beaucoup de dispositifs en France, il faut peut-être se poser la question pour peut-être faciliter tous ces éléments-là, mais en tous les cas, ça fait partie des belles expériences qu'on suit de très près, et peut-être qu'un jour, ça sera l'occasion de la généraliser.
On est à quelques mois là de la présidentielle, il y aura les législatives derrière.
Est-ce que pour les législatives, votre camp aura un candidat pour s'opposer aux députés actuels ?
Oui, très naturellement, nous aurons des candidats dans le département. Ça, c'est une question qui est évidente. Voilà.
Après, est-ce qu'il y a un nom qui se dégage déjà ?
Non. Moi, je ne suis pas candidat. Hein, voilà. Non, on n'est pas là pour l'instant. Je vous dis, on est déjà dans des débats de primaire, on discute, on dialogue, et puis on verra. Mais les choses vont s'enclencher d'ailleurs assez rapidement. Hein. Mais bien entendu, nous aurons un candidat qui portera nos couleurs.
Qui verriez-vous bien, vous, alors ?
Oh, moi, je reste très prudent. Je suis en train de consulter, je suis en train de rencontrer, je suis en train de voir. Et voilà.
Oui, mais actuellement, on s'aperçoit que les politiques n'osent pas dire, ils disent sans étiquette. Tous les maires disent, on est sans étiquette. Ils rejettent un petit peu cette étiquette. Alors, est-ce que vous, ça vous gêne ?
Non, ça ne me gêne pas, parce que ça dépend en réalité de l'élection. J'en suis le bon exemple. Lorsque vous faites un papier, vous marquez toujours le sénateur LR, je suis vice-président du groupe LR, il n'y a pas de difficulté. Quand j'ai mené mes listes municipal à Montcoutan, j'avais dans ma liste des gens de toute sensibilité politique. Et donc, c'était pas une liste LR. Donc, à un moment donné, en fonction de la nature de l'élection et comment tu montes ton élection, il n'y a pas de débat. Quand je suis candidat aux élections sénatoriales, j'irai dans le groupe LR ensuite. C'est normal que je sois candidat LR. Donc, pour moi, c'est pas une difficulté. Et puis, je vous dis, tous les territoires ne se ressemblent pas. On est sur, en Deux-Sèvres, on est plutôt sur un département très centriste, centre-gauche, centre-droit. Donc, c'est pas la même chose que lorsque vous êtes dans la région PACA. Voilà. Donc, moi, mon problème, c'est pas forcément de savoir, c'est de dire je rejette ou je prends. Je crois que c'est pas le sujet. C'est de dire à un moment donné, sur quelle valeur est-ce que tu t'appuies? Quelle est ta sensibilité? Quelle orientation tu veux donner à ton mandat? Et puis, il faut être surtout clair avec les gens. C'est-à-dire que quand je me rends comme maire de Montcoutan, c'était pas le maire à l'air. C'était l'amoureux de sa ville qui est capable de fédérer des acteurs différents. Quand je me présente à une élection sénatoriale, c'est à la fois celui qui connaît bien son département, mais les gens doivent être clairs. Ils savent que je serai dans le groupe LR par la suite, même si ça n'empêche pas un certain nombre d'élus de gauche de voter pour moi, parce que la personnalité joue autant que l'étiquette politique.
Encore une fois, cette émission est passée très vite. Je pense qu'on n'est pas loin d'une heure d'entretien. J'avais une dernière petite question. Le YEL, le pronom YEL, qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je pense qu'on a d'autres préoccupations en ce moment.
Merci, Philippe Mouillet.
Merci pour cette très belle émission.